France Musique.
Bon week-end Nicolas Lafitte et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous. Alors, bien réveillés pour écouter Fabrication Maison, le magazine des coulisses de la musique à Radio France. Alors ce matin, nous parlerons prise de son et enseignement avec l'invité du portrait Pascal Ménard, puis pédagogie dans le reportage qu'a fait pour nous Susanna Kubik. Puis ce seront nos rendez-vous habituels du samedi matin, la chronique de Marie Fauché, les archives fabuleuses de Jean-Yves Pat, le souvenir musical de l'un d'entre vous et enfin le feuilleton « Question de cœur » avec Sophie Janin. J'espère que ce programme vous convient. Alors on y va ?
France Musique.
Bonjour Pascal Ménard.
Bonjour.
Alors Pascal, les auditeurs entendent parfois votre nom prononcé à la fin des émissions, mais en fait on ne vous connaît pas vraiment. Et pourtant, sans les ingénieurs du son, puisque tel est votre métier, pas de radio, pas de son. En fait, les ingénieurs du son sont un peu des gens mystérieux, mais pourtant ce sont eux les oreilles de Radio France. Vous êtes d'accord avec cette idée que vous êtes les oreilles de Radio France?
On est les oreilles de Radio France, mais il faut savoir que la radio, ça se fait en équipe. Donc c'est le résultat final d'une émission de radio, c'est d'abord une équipe, je pense. Effectivement, on traduit le son. C'est ça, de traduire le musicien.
Voilà, traduction du son, c'est un joli terme. Alors Pascal, vous nous proposez vos choix musicaux et le premier, eh ben, c'est un voyage de l'oreille.
Thank you.
Ravi Shankar, Pascal Bénard, c'est un beau souvenir.
Ah, c'est un souvenir fantastique. Ravi Shankar, c'était 1986. Ça faisait 5-6 ans que j'étais à la radio et franchement, j'ai découvert tout le monde de la world music, de la musique traditionnelle, grâce à la collection de Pierre Toureil, qui à l'époque travaillait. Anciennement Encora. Et il y avait beaucoup, beaucoup de productions à la radio sur les musiques traditionnelles et on enregistrait beaucoup de disques en studio. Évidemment, il y avait des enregistrements faits en extérieur par des ethnologues, mais très souvent, on faisait des prises en studio. On avait fait comme ça des albums avec Ravi Shankar, avec Nusrat Fateh Ali Khan, avec Subramaniam. C'est incroyable, quoi.
Alors, la prise de son est magnifique, il faut le dire. C'était Jean-Pierre Juncker.
Eh oui, c'est un de mes maîtres, il faut le dire.
Donc, il y a une tradition de passation ici à la radio.
Exactement, il y a vraiment une culture du son, une manière d'aborder le son qui est, je pense, assez différente par rapport au studio classique d'enregistrement. Quand je dis classique, studio de variété. Hein, parce qu'un studio classique, ça n'existe pas. Mmh. Donc, c'est plutôt de la musique de variété, de musique de jazz. Et c'est vrai que grâce aux locaux dont on dispose, aux grands studios dont on dispose, on travaille énormément avec l'acoustique et avec la texture sonore du lieu et qui fait que le musicien retrouve complètement son timbre. Ce qui est rarement le cas dans un studio où on n'a pas d'acoustique, on est obligé de tout recréer artificiellement, quoi. Et là, c'est l'exemple même d'une prise de son qui se fait dans l'instant. Il n'y a pas de retravail du son par la suite, il y a une prise de son directe, donc il faut qu'elle soit la plus parfaite possible, en accord avec ce que souhaite le musicien. Et du coup, le musicien, très souvent, ne fait qu'une prise. Et c'est tout le temps pratiquement le cas dans la musique traditionnelle, il n'y a qu'une prise de fait. Donc c'est vraiment l'instant moment présent, et ce qui fait que le musicien peut être en forme ou moins en forme.
C'est vraiment une relation entre le musicien et le preneur de son. C'est
exactement.
Un regard, une oreille commune.
Ouais, il faut vraiment
et ça se fabrique.
Exactement. Puis il faut vraiment qu'on soit au service de ce que recherche le musicien.
Alors, on écoute une autre prise de son. Celle-là, ce sera la vôtre. C'est Franck Avitabil.
Thank you.
Childhood Memory, c'est une pièce de Frank Avitabile. Et c'est vous, Pascal Bénard, qui l'avez enregistrée.
Oui. Et j'ai voulu faire écouter ce titre parce qu'à la fois, je trouve que pour un musicien de jazz, on remarque à travers la sonorité qu'on n'est pas forcément un son jazz sur certaines pièces. Et c'est le cas de Franck qui vraiment s'inspire beaucoup du son de certaines sonorités classiques. Il faut savoir que Franck a été un élève de Michel Petrucciani. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément au son. Et grâce à lui, j'ai pu, au niveau de Radio France, avec Hervé Desjardins, faire énormément d'expériences sur le son multicanal.
C'est quoi le son multicanal ?
Alors le son multicanal, pour faire simple, c'est un peu la différence entre le noir et blanc en télé et la couleur.
Et la couleur,
voilà,
ouais,
c'est-à-dire qu'on a une perception du son qui est beaucoup plus intéressante et qui vous permet d'immerger l'auditeur dans un espace réel, un peu tel qu'on peut l'entendre avec ses oreilles.
Donc pas deux dimensions, mais un peu plus, quoi.
Exactement, on est plutôt en son 3D.
Droite-gauche, voilà. Et puis un derrière et éventuellement un devant.
Exactement. Voilà.
Et donc on est environné par la musique.
Exactement.
Donc ça, c'est un des travaux qui vous passionne ici.
Oui, c'est vrai que ça fait très longtemps que je m'intéresse au son multicanal, que Radio France s'y intéresse depuis très très longtemps aussi. Il faut savoir que on a commencé à faire de l'hexaphonie fin des années 70 à Radio France, et donc on était assez précurseur dans ce domaine. Sur des exploitations de type classique, sur des grands orchestres. Et donc c'est encore une histoire de culture qui continue et de continuité dans ce qu'on peut apprendre dans sa profession. On nous transmet des choses et moi je trouve ça très intéressant, et notamment dans le multicanal et maintenant dans le son binaural. Donc la différence entre le multicanal et le binaural, c'est que dans le multicanal, vous êtes avec des enceintes, alors qu'avec le son binaural, vous avez un son 3D, mais avec un casque classique stéréo.
Ah oui, d'accord, on est carrément dans la musique. Alors là, on va écouter un extrait de concert, c'est Eric Bibb, live à FIP.
Some days you get diamonds, some days nickels and dimes, some days life's a poem. Some days nothing rhymes. Some days you're a winner. Some days you lose. Some days all you're doing is paying dues. On a Wednesday, I was playing in a biker bar outside Topeka. On that Friday, I was playing on a blues cruise on a Dominica, ebbs and flows like the tide. Some days you get diamonds, some days nickels and dimes, some days sparkle, some days nothing shines. Some days you're giving, some days you choose. Some days all you're doing is paying dues. Tonight I'm sleeping in a 5-star hotel. Wouldn't ask for more. But I remember I wound up many a night sleeping on a stranger's floor. Sometimes you walk, sometimes you ride. Under their shoe, ain't nothing new. Others greet you like a holy prophet. Now what you gonna do? You try to take it all in stride. 'Cause some days you get diamonds, some days nickels and dimes, some days you're out of tune. Some days it all chimes. Some days you're grinning, some days you're frowning a blues. Some days all you're doing is pay dues. Some days all you're doing is pay dues.
Diamond Days, un titre d'Eric Bibb enregistré live à FIP, c'est-à-dire au studio 105 de la Maison de la Radio. Et Pascal oui. Bénard, c'était vous à la prise de son. Alors, c'est vrai qu'on dirait pas qu'on est dans un studio, il suffit qu'on entend heureusement les applaudissements à la fin.
Exactement, mais... c'est-à-dire que là on est dans un concept complètement différent par rapport aux deux premiers exemples où on avait une prise, où on utilisait énormément l'acoustique du lieu. D'accord.
Et la matière première des instruments.
Exactement, ouais. Alors que là, tout est retravaillé. Tout est peaufiné, on essaie vraiment d'aller au mieux de ce qu'on peut faire, en sachant qu'on ne refait pas de prise. C'est-à-dire que c'est vraiment le son brut du concert qu'il faut retravailler.
Mmh. Oui, donc ce que les gens ne savent peut-être pas, Pascal Bénard, c'est que il suffit pas de poser des micros et hop, on ouvre des boutons et ça marche. Un son, finalement, ça se refabrique. Ça n'existe pas a priori.
C'est-à-dire qu'il faut déjà arriver à le capter le mieux possible, et s'il est mal capté, c'est très difficile à retravailler ensuite. Donc la captation est primordiale. Et ensuite, il faut évidemment trouver un son qui corresponde à ce que souhaite l'artiste. Et ça, c'est encore autre chose.
Mmh. Et puis, les genres musicaux demandent des prises de son différentes.
Exactement.
On n'enregistre pas un piano classique comme un piano jazz.
Et y a le musicien qui fait tout. Faut pas oublier ça. Hein. C'est-à-dire qu'une prise de son réussie, c'est d'abord une bonne osmose musicale. Si on n'a pas les bons musiciens... Le bon moment pour eux, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en forme et les bons instruments, on peut pas partir sur quelque chose de parfait, c'est pas vrai. On ne rattrape pas tout.
David Cadouche se débrouillait assez bien lors du récital qu'il donnait à l'auditorium de la Maison de la Radio. C'était David Cadouche au piano dans La Fugue du Capriccio sopra la lontananza del suo fratello de Jean-Sébastien Bach, enregistré par vos soins, Pascal Bénard, à l'auditorium de la Maison de la Radio en septembre 2015. Alors cet auditorium, ça a été quand même pour nous tous ici et pour les auditeurs, j'imagine, quand même une sorte de grande découverte et de grande aventure.
Oui,
et
puis pour un preneur de son, c'est une grande découverte quand, pour la première fois, il va placer ses micros. Et on peut écouter l'acoustique du lieu, effectivement, directement, mais quand on commence à placer des micros, c'est là où on se rend compte exactement de la qualité du lieu aussi. Et c'est vrai que ce concert que j'ai fait pendant les journées du patrimoine, donc c'est vraiment très récent, je me suis dit, ah oui, là, il se passe quelque chose, quoi.
Oui, et qu'est-ce qui se passait, alors ?
Ben, c'est simple, on place deux micros et ça sonne quand même très, très bien, quoi. Et c'est là où on voit la qualité de la salle.
Deux micros, et on a la dimension du piano.
Alors, après, il y a évidemment la manière de placer les micros. Oui, donc oui. Ça, c'est un métier comme un cuisinier, il faut placer ses micros. Oui. Mais disons qu'il y a une réponse de la salle qu'on entend tout de suite, et on voit à peu près dans quelle direction on va aller, quoi. Et ne pas oublier le musicien qui va, lui, se mettre en conjonction avec la salle, qui est très important.
Mais vous le disiez, Pascal Bénard, on fait toujours ce qu'on appelle des balances dans notre jargon, c'est-à-dire on pose les micros et on teste pour voir si ça marche, et ça ne ressemble jamais finalement au concert.
Jamais, parce que 90% des cas, ça va toujours dans le mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a un point qui est vraiment crucial à la balance, qu'on a forcément au concert, c'est la concentration qu'on n'a pas. C'est-à-dire que un musicien, lui, il faut qu'il se concentre pour ce concert. Et quand on lui demande de faire une balance, généralement, c'est avant le concert. Et donc, il faut qu'il se prépare aussi. Il va vous donner des exemples techniques pour nous, pour arriver à faire une balance correcte. Mais lui, il n'est peut-être pas encore dans son concert. Mmh. Et tout ce qui va changer, justement, c'est la concentration qui va arriver au concert.
Vous avez choisi pour terminer un enregistrement récent paru cette année, qui est un très beau travail avec une multitude de musiciens autour de John Greaves et autour surtout des poèmes de Verlaine. Élise Caron, Jeanne Adet, Thomas de Porquerie, Olivier Mélano, Evry Serre, Régis Boulard et bien d'autres entourent John Greaves pour un très bel album sorti dans la collection Signature de Radio France et qui s'intitule Verlaine gisant. Et c'est vous, Pascal Bénard, qui en avez fait la prise de son. Une prise de son compliquée.
Compliquée et une très très belle aventure humaine.
Ouais.
Donc c'était vraiment très intéressant. C'est vrai que la collection Signature, qui est dirigée par Bruno Letor, apporte vraiment des sujets intéressants et parfois
pour le preneur de son que vous êtes.
Et parfois compliqué à enregistrer, mais c'est toujours des bons challenges.
Cette passion, Pascal Bénard, vous la partagez beaucoup, je crois. L'enseignement fait partie de votre vie.
Oui, longtemps.
Depuis longtemps. Et puis je crois qu'en plus, vous allez chercher chez les plus jeunes. Vous pensez que l'oreille, ça s'éduque très jeune?
Oui, je pense que ça s'éduque très jeune. Et surtout maintenant, avec les nouvelles technologies et la manière dont les enfants abordent l'informatique, je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour à la fois leur éduquer à apprendre à écouter. Je pense que les enfants, on propose aux enfants d'écouter. Mmh. Et à la fois aussi pour protéger... question protection pour ouais. leurs oreilles.
Donc on en reparlera dans cette émission, mais je crois que vous avez un joli projet radiophonique avec quelques jeunes gaillards d'école primaire.
Exactement, avec une classe de CM1, une classe de CM2. Le but est de leur faire faire une petite matinale. On travaille à raison de deux après-midi par mois avec deux maîtres. Et le but aussi, c'est que les enfants apprennent à utiliser un petit enregistreur et à faire du montage sur un logiciel d'informatique et audio.
Ils vont venir nous remplacer alors le samedi matin.
Bah, peut-être que ça va donner des vocations, si jamais.
Merci Pascal Bénard.
Merci à vous.
Et voici la rubrique reportage dans Fabrication Maison. Alors mercredi 7 octobre dans l'après-midi, Radio France invitait enseignants, professeurs de musique et autres professionnels de l'éducation à une journée pédagogique portes ouvertes. Bonjour Susanna Kubik.
Bonjour Dominique.
Alors vous aussi, Susanna, vous avez reçu l'invitation.
Oui, tout à fait, une invitation pour la journée pédagogique portes ouvertes qui était en fait un après-midi et dont l'idée était de proposer aux enseignants de venir à la maison de la radio, d'assister aux répétitions publiques de nos orchestres, de rencontrer les équipes pédagogiques de la maison, de glaner, de s'informer, mais surtout, c'était l'occasion pour eux de tester eux-mêmes certains ateliers pédagogiques de nos formations et de nos chaînes de radio, ateliers habituellement destinés à leurs élèves.
Et alors vous, Susanna, vous vous êtes glissée dans la peau d'un enseignant de musique.
Oui, en effet. J'ai décidé de vivre le temps d'un après-midi la vie d'une professeure de musique à l'école qui animerait aussi une chorale et qui chercherait un projet clé en main pour ses élèves. Un projet à monter en classe que je pourrais travailler sur plusieurs mois avec les moyens simples, un projet qui aboutirait sur un spectacle ou un concert. J'ai donc fait ma feuille de route vite fait. Je vais chanter tout l'après-midi. Première étape, l'atelier classique en chanson proposé par deux violonistes de l'Orchestre National de France, Gaëtan Biron et Claudine Garçon.
Alors on va commencer en musique avec un petit élément musical très simple.
On y va ?
Aujourd'hui, nous accueillons des enseignants, directeurs, directrices de différents niveaux, de primaire et maternelle. Et on va les mettre en situation, on va leur présenter les ateliers que nous proposons justement pour ces niveaux de classe.
Et cet atelier classique en chanson, il part de quelle idée en fait ?
Pour qu'un enfant puisse reconnaître quand il vient au concert et puisse reconnaître et s'approprier un petit peu la symphonie qu'il va venir entendre ou le concerto, c'est donc de transformer les thèmes principaux d'une œuvre qu'ils vont venir entendre en chansons. Et on utilise pour ça, donc on fait des arrangements et on utilise aussi un texte issu de la poésie pour que les enfants en fait, puissent apprendre des chansons, intégrer les thèmes principaux et pouvoir après les chanter devant nous. Ils nous écoutent, mais nous on les écoute après aussi.
Marie Fauché, responsable des actions pédagogiques de l'Orchestre National de France.
Ce concept d'atelier, le classique en chanson, elle mérite de réunir beaucoup de choses, puisqu'il s'agit de poèmes de grands auteurs mis en musique, mis en chanson sur les grands thèmes, sur les grandes mélodies des œuvres au répertoire de l'Orchestre National. Là, l'idée, c'était vraiment de proposer aux enseignants de leur dire ce à quoi vous pouvez assister, notamment avec l'Orchestre National, et voilà les outils pédagogiques qu'on vous propose. Des chansons, un disque également avec l'œuvre symphonique originale, un dossier très complet, des partitions. Et ces ateliers sont réalisés par les musiciens eux-mêmes dans les classes.
Ce qui est intéressant avec ce projet-là et tant d'autres d'ailleurs, c'est qu'un projet n'est pas forcément destiné à un seul niveau. Il est adaptable en fonction de la difficulté gérable en classe, en quelque sorte.
Alors en fait, le classique en chanson, c'est vrai qu'on le destine vraiment aux grands de l'école élémentaire. principalement en raison des poèmes qui sont des poèmes de Baudelaire, de Victor Hugo, de Verlaine. Donc, bon, dès lors qu'on cible ces textes-là, il est évident que pour des maternelles, ça ne convient pas. Mais en revanche, l'idée de mettre des paroles sur les grands thèmes des symphonies, c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec des tout-petits. Et on le fait également, mais cette fois-ci, c'est davantage en inventant nous-mêmes les textes autour d'une histoire qu'on va raconter, qui sera féerique, par exemple, pour emmener les enfants un petit peu à la rencontre de l'œuvre.
Ce qui est aussi très intéressant à dire, c'est que chaque atelier proposé tourne autour d'un concert spécifique. Et au final, les enfants sont amenés à assister au concert et même à chanter devant les musiciens.
Oui, en effet. Chaque atelier n'existe pas sans être connecté à la réalisation finale qui est l'orchestre, l'œuvre dans sa version symphonique, donc la répétition générale ou le concert. Les enfants assistent à l'atelier pour être préparés, ils sont préparés à l'écoute du concert, à l'écoute de la répétition générale.
Dernière mesure chantée du deuxième mouvement de la symphonie concertante de Mozart sur les poèmes de Verlaine. C'est parfait. Je sors contente de l'atelier, le dossier pédagogique sous le bras, et retourne dans le hall de Radio France pour papoter un peu.
Je suis enseignante en maternelle. Je m'appelle Nadine Lieberman. Je travaille en moyenne et grande section dans le 11e arrondissement.
Qu'est-ce qui vous a fait venir ici pour suivre cette journée pédagogique ?
La curiosité, c'est la première fois que je reçois une invitation pour venir voir, et je chante avec ma classe, je mène la chorale de mon école, et en fait je suis venue un petit peu à la pêche aux nouvelles et voir si ça pourrait m'intéresser ou si ça pourrait intéresser mes collègues
Vous avez suivi un atelier qui a une adaptation pour les maternelles possible. Est-ce que vous y voyez éventuellement une collaboration possible ?
L'atelier auquel j'ai participé correspondait plus à des élémentaires ou à des enfants plus âgés. Je pense que je vais continuer à me renseigner pour l'offre maternelle spécifique. Ça me semblait un petit peu compliqué encore pour mes élèves. On m'a très bien expliqué qu'une autre offre était possible pour les maternelles, plus simple et plus ludique, et qui mettait en place des personnages et qui permettait de personnaliser le morceau, la pièce de musique.
Vous êtes enseignante relais, c'est ça ?
C'est ça, je suis professeure relais.
Quel est le rôle de professeur relais dans les projets pédagogiques ?
Un rôle, bien sûr, de communication, pour faire connaître nos actions pédagogiques, nos concerts, nos ateliers, nos projets.
Myriam Zanuto, professeur relais à l'Orchestre Philharmonique.
C'est également tout ce qui est la préparation de dossiers pédagogiques pour que les enseignants qui ont inscrit leur classe à des concerts puissent préparer en amont leur classe et avoir une ressource pour pouvoir préparer leurs élèves, puisque ce sont pas seulement des enseignants de musique, mais aussi des enseignants en primaire qui n'ont pas forcément de professeurs de musique intervenant dans leur classe. Donc c'est un support pour eux pour préparer la venue des élèves au concert. C'est également travailler pour la formation des enseignants et donc proposer une ou deux formations à l'année à destination des enseignants de musique, mais pas seulement, de toutes les disciplines. Et également, c'est évidemment très important d'établir des parcours à l'année avec des enseignants et des classes où justement ce sont des parcours sur mesure élaborés en fonction des attentes des enseignants pour leur classe, tout niveau confondu, ça peut être école élémentaire, collège ou lycée, où en général les classes viennent au concert avec leurs enseignants à peu près une fois par trimestre ou à une générale. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le musicien de l'orchestre se déplace en classe pour faire des ateliers de pratique et parler aussi de ce qu'est un orchestre, de la vie d'un orchestre, de ce que c'est qu'être un musicien dans cette micro-société que représente un orchestre. Et ça intéresse beaucoup les élèves, de quel âge qu'ils soient.
Allez, en place! Il nous reste juste le temps de répéter. Bon, vous vous souvenez, demain, nous allons visiter l'opéra. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, c'est musique. On chante. Vous vous souvenez de la position des pieds, ancrés dans le sol, pas trop serré, pas trop écarté?
Pour chanter à l'opéra.
Ce que moi j'essaie de voir surtout, c'est que là où on est utile, où sont les besoins. Et pour moi, il me semble qu'il faut surtout que Radio France propose de créer un répertoire qui soit utilisable et chantable. Ce sont déjà des œuvres de qualité avec une difficulté adaptée, on va dire, par rapport aux âges différents. Et il y a un besoin de répertoire pour cœur d'enfant. Il y a un besoin aussi d'encouragement des pièces qui existent. Et là-dessus, je pense qu'on joue un rôle très spécifique à Radio France, parce que finalement, c'est notre métier ici. Nous sommes les spécialistes et on peut même faire redécouvrir des pièces dont la plupart des Français aujourd'hui ignorent l'existence.
L'après-midi pédagogique continue avec la présentation des projets de la maîtrise.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, bonjour.
Sophie Janin, directrice musicale, propose pour la suite un atelier de chant choral. Je décide d'y participer.
En fait, on avait proposé cet atelier vocal parce qu'on avait surtout vu qu'il y avait un besoin d'entrer concrètement dans le travail et que quand ils sont seuls parfois avec les élèves et dans leur classe, ils ont un manque parfois d'échange. Et finalement, on peut proposer à la radio ce genre de rencontre. Et je voulais également partager avec eux quelques pièces de création que nous faisons, ce que nous proposons en partenariat avec l'Éducation nationale, puis de leur montrer aussi que nous sommes là et ravis de les avoir et toujours les portes ouvertes pour travailler avec eux.
Sur le bout de la langue, et qui peut être agréable. Et on peut également faire des petites mélodies. faisais pour que ça soit pas trop difficile. Ah oui, avec les collégiens, ou même avec les primaires, je chantais sur Tarantella. Vous savez comme la danse.
J'enseigne à la maternelle Marcelin Berthelot à Montrouge, en grande section. Et nous avons un projet avec trois classes de moyens et une classe de grands, un projet qui tourne autour de la musique cette année. Donc c'est pour ça que je suis venue ici, pour voir un peu ce qui était proposé et pour pouvoir travailler toute cette année avec nos élèves autour du chant et de la création musicale.
Et vous avez suivi plusieurs ateliers au cours de la journée ?
J'ai écouté une répétition de l'orchestre avec une compositeur coréenne qui était très intéressante. Et puis après j'ai écouté la présentation de toutes les propositions de la chaîne. Et puis maintenant voilà, j'ai participé à l'atelier chant avec un grand plaisir.
Et vous repartez avec une idée concrète de ce que vous allez faire avec vos petits?
Oui, parce que là il y a une proposition qui est intéressante de musique pour les maternelles et puis surtout j'ai trouvé ici un tel plaisir de partager la musique que c'est ce que je souhaite le plus pour mes élèves, quoi. C'est qu'ils découvrent une manière d'écouter, une manière de découvrir, une manière de vivre la musique qui leur fasse continuer après à écouter autre chose que ce qu'ils ont plus l'habitude d'écouter.
C'était un extrait de l'opéra pour enfants « Nous n'irons pas à l'opéra » signé Julien Joubert et interprété par la maîtrise de Radio France que vous pouvez encore écouter sur francemusique.fr.
Merci pour votre reportage, Susanna, qui permet aux enseignants qui ne pouvaient pas être présents à Paris ce jour-là d'avoir une idée de ce qui est proposé aux plus jeunes ici à Radio France. Et il n'est jamais trop tard pour s'inscrire sur le site maisondelaradio.fr. Et puis on peut également lire l'article que vous avez écrit à ce sujet et qu'on trouve sur le site de France Musique. Merci Susanna. Et voici le moment de la chronique de la Maison Ronde pour laquelle nous retrouvons Marie Fauché. Bonjour Marie.
Bonjour Dominique. Bonjour à tous.
Elle a vu partir son bateau. Et lorsque s'est tue la sirène, elle a couru noyer sa peine et son amour au fond des eaux.
C'est magnifique, c'est la belle voix de Barbara. Et pourquoi Marie Fauché ?
Oui, parce que elle s'appelle « Le cri des sirènes », cette chanson. Et c'est le jingle que j'ai choisi ce matin pour illustrer le concert de l'Orchestre National de France, jeudi prochain. Jeudi, le concert est sous le signe de l'amour et de la mer. Avec d'abord, oui, une histoire de sirène, sans accordéon. Ça commence dans les eaux profondes, avec les basses. Et puis rapidement, les violons vont entrer comme des rayons de lumière qui percent ce monde silencieux et obscur. Enfin, harpe, clarinette, hautbois et bientôt flûte découpent l'étendue comme autant de miroitements fugaces.
C'est superbe, dites-nous ce que c'est, Marie Fauché.
Eh bien, c'est une œuvre qui est rarement donnée, c'est La petite sirène de Zemlinsky.
C'est donc l'histoire de la petite sirène.
Oui, alors c'est toujours pareil, en musique ça ne raconte pas vraiment. Mais oui, Zemlinsky s'est inspiré de cette histoire, et il y a d'ailleurs un argument assez précis que la musique illustre. Voici le thème de l'amour qui parcourt l'ensemble de l'œuvre. Et puis on retombe dans les fonds marins. Thème qui procède par paliers. Une véritable déclaration. C'est marrant ça, l'amour à l'époque romantique, enfin là c'est post-romantique, c'est toujours illustré par une sorte d'ascension, d'épaississement de la musique, ça déborde quoi. Et figurez-vous que Zemlinsky à ce moment-là, en 1902, il en savait quelque chose. Il avait une jeune élève dont il était fou amoureux, et elle,
Elle profita bien de ses conseils, mais pas de chance pour le reste. Elle trouvait Zemlinsky très laid et sans envergure. Et elle lui préféra Gustav Mahler.
Et bien sûr, cette jeune femme, c'était Alma Mahler.
Et oui, c'était Alma Mahler. Et c'est pour elle, en pensant à elle, qu'il a composé cette petite sirène. On écoute encore un peu de ce chant de passion, qui évoque d'ailleurs la musique de Mahler, de Strauss aussi. Le discours est souple, c'est un long souffle. Ça se déplie, ça s'étire. Cette fois-ci, ce sont les violoncelles qui s'embrasent.
Un extrait donc de cette petite sirène de Zemlinsky dans l'interprétation du Gurzenicht Orchester dirigé par James Conlon.
Et on quitte les célèbres fonds marins autrichiens pour la terre ferme de Varsovie. Au programme du concert de jeudi prochain, un autre hymne à l'amour, le deuxième concerto pour piano de Chopin, dont il dédia le deuxième mouvement d'abord à Konstancja Gładkowska, au moment de sa composition en 1829, et puis finalement en 1836, au moment de l'édition de la partition, ni vu ni connu, il changea son fusil d'épaule, si je peux dire, et il dédia son concerto à sa chère Delphine Potocka. Bref, peu importe, disons que ce qui compte, c'est l'amour.
Thank you.
le deuxième mouvement du deuxième concerto pour piano de Chopin, interprété par Louis Lorty. Et ça sera Louis Lorty qui sera au piano le jeudi 22 octobre à l'auditorium de la Maison de la Radio avec l'Orchestre National de France sous la baguette d'Emmanuel Krivine.
Et au programme également, on pourra entendre La Petite Sirène de Zemlinsky et une œuvre de Hector Berlioz.
Et j'ai une pensée ce matin pour notre confrère Dominique Jameux qui nous a quittés cette année et qui aimait tout à la fois la Vienne de Zemlinsky, Chopin et Barbara.
Merci Marie Fauché. Et je signale à nos auditeurs parisiens à cette date que Fabrication Maison vous invite à ce concert. Pour gagner des places, il vous suffit de vous inscrire en allant sur la page de l'émission Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Et bonjour Dominique, comment allez-vous ?
Et moi je vais très bien et vous ?
Eh bien je ne sais pas, moi j'espère aller aussi bien que tous nos amis auditeurs.
Alors, c'est dire que vous nous emmenez en voyage.
Voilà, est-ce que vous avez fait votre valise ?
Oui, bon, on va où ? Dans le sud ?
On va dans le sud, vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai promis de vous emmener à Marseille.
Et alors vous tenez vos promesses ?
Je tiens toujours mes promesses, enfin juste quand ça m'arrange. Comme tout le monde.
Alors, Radio PTT se balade à Marseille.
Radio PTT, voilà, ouvre une antenne à Marseille en 1924. Et c'est une grande année, Marseille, en 1924, parce qu'on va enfin réinaugurer le théâtre municipal, c'est-à-dire l'opéra de Marseille, qui avait brûlé en 1919, de manière accidentelle, et qui a nécessité d'importants travaux, non seulement de consolidation, mais de reconstruction d'une très belle salle Art déco. Alors, elle est inaugurée avec le grand opéra Sigurd de Reyer.
Arrêtez.
Je parle pas de vous.
Pardon.
C'est la blague la pire qu'on ait jamais faite au monde.
C'est la plus idiote. Hein. Oui, bon, c'est fait.
Donc c'est fait. Et l'année suivante, enfin la fin de 1924, début 1925, Radio PTT Marseille ouvre. Et alors, évidemment, la radio ouvre dans un contexte de folie lyrique, puisque d'un seul coup, Marseille peut renouer avec le grand art lyrique. Et Marseille a des chouchous, évidemment. Et parmi ces chouchous, excusez du peu, on va quand même trouver Tito Skipa, Ninon Valin et Georges Till. Je crois que comme tête d'affiche, on peut rêver
pire. C'est pas mal.
Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour à Marseille en 1925 et d'entendre sur les ondes de Radio PTT Marseille l'élixir d'amour, Una furtiva lacrima, non ne pleurez pas, chanté par Tito Skipa. C'est merveilleux.
Palpiti
bel cor sentir. I miei sospiri compandere per poco a noi sospiri. I palpiti sentir, confondere i miei co suoi sospiri, cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo.
Mon Dieu, qu'il est bon ce ténor.
Ah, magnifique.
Ah, moi, je trouve ça superbe.
Heureusement qu'il y a des peines d'amour, parce que ça nous vaut quand même des grands moments.
Des grands moments de la voix. Tito Skipa, ténor, orchestre à l'ensemble, c'est pas, sous la direction de Rosario Bourdon. Et c'est un disque gramophone Camden, New Jersey, 1925.
Oui, parce que ce sont des grands artistes internationaux, vous l'imaginez bien, et les grandes compagnies de disques les invitent à enregistrer, et il a dû enregistrer ce disque au moment où il faisait une tournée aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de l'artiste suivante, Ninon Valin, non qu'elle n'ait pas été appelée par les plus grandes scènes internationales, mais elle a eu le bon goût d'enregistrer à Paris. C'est pas si loin de Marseille, finalement, vu depuis Camden.
Comparé avec New York.
Ouais, aux États-Unis. Alors, elle, c'est là, chouchou absolu, non seulement de Marseille, mais de toutes les grandes scènes lyriques européennes et des grands compositeurs. On connaît la fascination qu'avait Debussy pour la voix de Ninon Valin. Elle a été adulée. Et il faut dire, il y a de quoi. C'est extrêmement convaincant. Alors, je vous ai choisi un des airs qui est peut-être le plus célèbre et qu'elle a enregistré un grand nombre de fois, un extrait de Louise, depuis le jour où je me suis donné, qui est absolument magnifique. L'orchestre est peut-être placé sous la direction de François Roulman, parce qu'à cette époque-là, François Roulman a fait beaucoup d'enregistrements chez Pathé, et vous allez voir, c'est un grand moment. Là, aujourd'hui, on n'a que des grands moments. Alors, je ne vais pas le répéter trois fois, ça fait deux fois,
oui,
et c'est parti.
Encore une.
Allez.
Thank you.
la voix de la belle Ninon Valin dans cet air extrait du Louise de Gustave Charpentier. C'était l'air Depuis le jour avec l'orchestre, un orchestre. Toujours pareil, orchestre.
Oui, on ne sait pas. Ce sont souvent des transfuges, des musiciens qui viennent de l'opéra comique, certains membres de la garde républicaine aussi. Et c'est un orchestre qui est constitué souvent pour l'occasion.
Alors, par contre, oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un disque Pathé Art. Alors, quelle était cette firme Pathé Art?
Alors, Pathé Art, c'est une transformation de la grande firme Pathé. On a rencontré souvent des Pathé Saphir dans les époques plus anciennes. Et à un moment, Pathé s'est mis au disque à aiguille. Et pour marquer ce passage, ils ont aussi fait des enregistrements d'une qualité supérieure avec l'utilisation du micro particulièrement. Et donc, ils ont fait appel à des artistes qui ont créé des étiquettes Art Déco, vous savez, très typées années 25. Et ce sont des disques exceptionnels à la fois par la qualité du pressage, la qualité de l'enregistrement et la qualité des artistes. Ce sont de très très beaux disques. Et si vous allez sur le site, vous verrez un morceau de cette étiquette et vous pourrez apprécier. C'est presque une œuvre d'art à part entière.
Mmh. Alors, dernière grande star qui fait vibrer sa voix sur les ondes de Radio Marseille.
Radio PTT Marseille.
Radio PTT Marseille. C'est Georges Thill.
C'est Georges Thill. Alors Georges Thill, bon, c'est le grand ténor des années 30, 25-30. Il est un petit peu plus jeune que Tito Skipa. Et il est connu, on l'a déjà écouté ici, vous vous souvenez une fois. C'est déjà une vedette des ondes. Et il est connu particulièrement pour le velouté de sa voix et la somptuosité de son articulation. Et donc vous savez, on donnait beaucoup les opéras traduits encore à cette époque-là, de façon à ce que tout le monde comprenne. Donc ce qui est le cas de ce Sadko de Rimsky-Korsakov. Normalement, le livret est de Rimsky-Korsakov. Korsakov lui-même, mais il y a une traduction française de Deligne et Lallois qui nous permettent de comprendre et d'entrer directement dans le mystère de cette chanson hindoue.
innombrables, les perles dans nos mers incalculables, c'est l'un de
Ça tombe sans un pli.
Ah oui, ça, sans un pli, ça tombe comme un diamant.
C'est quel poète, c'est joyeux. En tout cas, Rimsky-Korsakov traduit en français, ça marche.
Ça marche, oui, non, ça a été très très bien fait. Et puis en plus, cet aspect un peu crooner, on peut presque trouver ça dans la voix de Georges Till, oui. Nous fait complètement rêver à ce pays improbable où il y a des diamants et des perles comme ça partout. Enfin, force de se baisser pour les ramasser, on finit par avoir mal, rien n'est parfait.
Un bagot. L'orchestre était dirigé par Eugène Bigot et c'est un disque Columbia, Paris, 1933.
Voilà, c'était pas merveilleux.
On reste dans le sud, s'il vous plaît, la
oui.
semaine prochaine.
Alors on va rester dans le sud parce que l'implantation des radios PTT Marseille, à Marseille justement, a créé une guerre des radios. Et nous allons nous intéresser à ça la
semaine
prochaine.
Ce n'est pas la guerre des mondes, mais la guerre des radios.
Des ondes.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique, dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Marie-Jeanne Delarue. La découverte de la musique fut pour moi comme un tsunami. J'entrais dans l'adolescence et je fus dévastée par cette rencontre extraordinaire. Je pressentais un monde inouï, immense, merveilleux, comme une forêt magique, au bord de laquelle je me trouvais émerveillée. J'y entrais sur la pointe des pieds, mais animée d'une grande détermination. Je voulais tout apprendre. Déconcertée par cette réaction, mes parents m'inscrivirent au conservatoire où je pris des cours de solfège et de piano. Mes premières intuitions ne se démentaient pas. Je travaillais sans relâche. Cependant, je n'avais d'instrument qu'un vieil harmonium poussif, appartenant à ma tante, et le professeur de piano m'interdisait de m'en servir pour jouer Chopin, Beethoven ou Mozart. J'étais donc obligée de travailler à l'école, où se trouvaient quelques pianos médiocres que s'arrachaient de nombreux élèves. Il fallait batailler pour se faire une place, et on n'était jamais tranquille, ce qui m'irritait considérablement. Mais je n'osais rien demander, sachant pertinemment que mes parents n'avaient absolument pas les moyens d'acheter un piano. Je travaillais donc vaille que vaille dans de mauvaises conditions, quand un soir venu me chercher au conservatoire après un cours de solfège, mon père me dit d'un ton taquin « J'ai une surprise pour toi, devine !» Je compris immédiatement, mais je n'osais rien en dire, pensant à ma déception si je me trompais. Mais je ne me trompais pas. « Un piano » m'annonça-t-il triomphalement. « Je t'ai trouvé un piano !» Je n'en revenais pas. Un piano, j'en avais le souffle coupé. Mais comment ? Je l'ai trouvé chez un copain, me dit mon père d'un ton détaché. Je ne l'ai pas payé cher, il me l'a cédé pour 100 francs. Sitôt arrivé, je me ruais dans le salon où les transporteurs l'avaient déposé et je le découvris. C'était un petit piano droit. Il datait du Second Empire et en portait la marque. En soie, le meuble était magnifique. Fin, léger, d'un noir brillant, il était décoré de colonnettes torsadées qui montaient gracieusement le long du buffet, de chandeliers de cuivre également recourbés, d'un joli pupitre en bois. Le clavier en ivoire un peu jauni était bizarrement mou, n'offrant strictement aucune résistance au toucher. Il n'avait pas servi pendant des années et il était affreusement désaccordé. « Ne t'en fais pas, me dit mon père, on va faire venir un accordeur. » Il vint en effet et se lamenta. « Misère, comment voulez-vous que je vous l'accorde? Il ne tiendra jamais, c'est impossible !»« Comment impossible ?» demanda mon père irrité. « C'est votre métier, non ?»« Oui, mais ça, c'est pas ordinaire. Les chevilles sont tellement anciennes et plantées dans du bois, et le bois est si vieux, si sec. Ça ne tient pas, ça ne tiendra pas !» J'écoutais, fort angoissé. À la fin, il consentit à tenter un accord, presque deux tons en dessous du diapason, pour ne pas trop tirer les cordes. « Je peux pas faire mieux. Encore heureux si ça tient, » ronchonnait-il. Ça tint à peu près et c'est ainsi que des semaines, des mois durant, je travaillais sur mon piano Second Empire, baptisé Napoléon III par toute la famille, les morceaux et exercices que me donnait mon professeur. Chopin, Mozart et Beethoven sonnaient donc deux tons trop bas. Étonnamment, mes progrès furent fulgurants. Et mon professeur intrigué me dit un jour « J'aimerais bien voir votre piano ». Imaginant sa réaction avec inquiétude, j'aurais voulu le supplier de n'en rien faire, mais je n'osais pas. Il vint lui aussi et resta sans voix devant Napoléon III. « C'est là-dessus que vous travaillez ?» dit-il d'un ton incrédule. « Ben oui, répondis-je avec mauvaise humeur, je ne peux pas faire autrement. » Néanmoins, ces années d'apprentissage furent déterminantes. Ce fut le début de toute ma carrière de musicienne et de professeur de musique. Je ne sais pas très bien ce qu'est devenu ce cher instrument dont j'ai perdu la trace. J'aurais bien voulu le garder, ne fût-ce que pour mémoire, car je lui vouais une grande tendresse, malgré ou peut-être à cause de ses défauts. Il reste lié dans mon souvenir à une période de ma jeunesse nourrie d'émotions inoubliables auxquelles il a largement participé. Et pour cela, il méritait bien que je vous conte son histoire. Pour illustrer le souvenir musical de Marie-Jeanne Delarue, que je remercie, nous avons écouté l'une des sonates pour piano de Mozart, la numéro 13, sous les doigts de Maria Joao Pires. Cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, alors n'hésitez pas à prendre la plume et à nous raconter l'un de vos grands moments avec la musique. Je me ferai une joie de vous lire à l'antenne. Sophie Jeannin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors pour Fabrication Maison, vous répondez chaque semaine aux questions qu'on peut se poser concernant le cœur. Mais une des questions peut-être un peu centrales que l'on peut se poser, que je me pose moi d'ailleurs, c'est est-ce que tout le monde peut chanter ?
Moi je crois que oui, tout le monde peut chanter, ça dépend comment. je pense que finalement quand les gens disent que je n'ai pas de voix, je ne sais pas chanter, etc. On est très complexé par le chant très souvent. Et c'est dommage parce que le chant c'est notre première expression musicale et il me semble qu'il est vraiment très accessible à tout le monde. Et finalement de ne pas entendre les hauteurs de son, on dit que c'est à peu près aussi rare que de pas pouvoir voir des couleurs. Après, de pas savoir placer sa voix, c'est tout simplement, la plupart du temps, un manque de pratique. Donc moi, je serais pour, il faut que tout le monde chante. Moi, je pense que ça fait du bien de chanter. Qu'on chante après sous la douche ou en famille ou en chœur ou dans un chœur amateur ou qu'on vise à en faire son métier. Après, ça dépend de l'ambition et l'envie et les capacités et le talent de chacun. Mais en tout cas, chanter... Je pense que ça fait partie de la nature humaine et il faut absolument qu'on reconnecte avec ça.
Et il vaut mieux commencer tôt, Sophie Jeannin.
Si on a la chance de commencer tôt, oui. Et en plus, ça coûte rien. Et de faire une comptine à la maison avec ses enfants, ça coûte pas grand-chose. C'est un moment extrêmement agréable. Et le chant développe tellement d'acquis aussi par rapport à l'individu. Et de pouvoir pratiquer quand on est petit, le chant choral, la pratique collective musicale, c'est finalement une petite société en condensé. On apprend de se sentir bien dans sa peau, d'être renforcé par le collectif et en plus de toucher à des belles choses comme la musique, il me semble que c'est important.
Sweet love, sweet love.
La chanson traditionnelle Swing Low, Sweet Chariot, chantée par la maîtrise de Radio France, en concert à Saint-Denis et sous la baguette de Sophie Janin. Je vous rappelle qu'il y a des places à gagner sur le site de Fabrication Maison pour le concert de l'Orchestre National de France qui aura lieu jeudi prochain sous la baguette d'Emmanuel Krivine. C'est la fin de l'émission. Merci à Pauline Boisaubert et Léa Racine qui l'ont préparé, à Cyrielle Weber qui l'a réalisé avec la complicité de Bruno Mourlan. Bon week-end à tous.